Traverser les frontières, un podcast du BTS audiovisuel du lycée des Arènes. Épisode 1.
Bonjour et merci d'écouter cette série de podcasts sur la migration en Méditerranée. Depuis 2014, c'est plus de 500 000 personnes qui ont traversé la Méditerranée depuis le nord du continent africain pour rejoindre l'Europe. Cette même mer a aussi emporté dans ses eaux 20 000 d'entre eux. Elle est devenue la route la plus dangereuse du monde. En effet, les conditions de vie déplorables dans de nombreux pays d'Afrique poussent ces citoyens à tenter leur chance de l'autre côté de la Méditerranée. Alors, j'aimerais pour nos auditeurs revenir sur les origines et l'évolution des bateaux humanitaires. Tout d'abord, l'organisation SOS Méditerranée est née au début de l'année 2015, après l'arrêt de l'opération Mare Nostrum. C'était une opération militaire initiée notamment par l'Italie, où durant quasiment une année, le bateau a recueilli 100 000 migrants en détresse sur l'eau. Le nombre de migrants empruntant la voie maritime pour tenter leur chance en Europe étant toujours aussi impressionnant, il fallait renouveler indéfiniment le fonctionnement d'un navire de secours humanitaire. L'Aquarius naît ainsi en 2016. Il est affrété par des membres de SOS Méditerranée, mais aussi de Médecins du Monde et Médecins Sans Frontières. C'était alors les États européens qui finançaient en grande partie le fonctionnement du bateau. Le navire est très efficace et c'est justement son efficacité qui va poser un problème d'idéologie politique dans les nombreux pays européens qui sont de moins en moins favorables à l'accueil des migrants, toujours plus nombreux. Peu à peu, les États vont tout mettre en œuvre pour ralentir le fonctionnement de l'Aquarius, un freinage assumé par Matteo Salvini, le nouveau ministre de l'Intérieur de l'Italie, qui mène une politique anti-immigration. L'Aquarius est mis hors d'état de navigation en 2018 et quelques mois plus tard, grâce à des dons privés, l'océan Viking est mis à l'eau et les humanitaires reprennent la mer.
La plupart du temps, nous naviguons proche du territoire libyen car c'est souvent dès les premières heures de navigation que les embarcations clandestines échouent. Je crois que c'est lors de mon huitième jour sur le bateau que l'équipage a effectué sa première intervention. Ils allaient secourir 57 migrants agglutinés sur un pauvre canot pneumatique. Le premier contact est difficile car ils ne savent pas s'ils sont capturés ou secourus. Il faut compter le nombre de personnes vivantes, éventuellement mortes, trouver un interlocuteur qui parle anglais, puis des gilets de sauvetage sont distribués. Une fois à bord de l'Ocean Viking, les médecins prennent leur température, isolent ce malade ou blessé et distribuent le nécessaire pour vivre plusieurs jours dans le bateau. Je dis plusieurs jours, car généralement, avant d'avoir trouvé un port pour débarquer, une multitude de nouvelles opérations de sauvetage sont déclenchées. Notre mission est un combat difficile et dangereux. Les opérations sont de plus en plus délicates aux confins de la Libye. Les gardes-côtes soutenus par l'Europe sont des malfaiteurs. Ils emprisonnent et maltraitent les migrants tentant de fuir l'enfer de leur quotidien. C'est souvent un délai de plusieurs jours qui est demandé pour qu'un pays accepte d'accueillir l'Ocean Viking. Pendant ce temps, ce sont 500 migrants en proie au doute, à l'inquiétude, car ils comprennent qu'ils ne seront finalement pas les bienvenus en Europe. Durant cette attente, le bateau surchargé, aucune intervention n'est possible. La mer est utilisée comme un moyen naturel de filtrer les arrivées, la mort permet de réguler le nombre de migrants, et l'Europe fait tout son possible pour conserver ce tragique filtre.
J'aimerais à présent lire un extrait de l'ouvrage de Laurent Godet intitulé Eldorado, un livre sorti en 2006 s'appuyant complètement sur le thème de la migration à travers le récit et les actions de deux personnages. Le premier est un jeune Soudanais qui va tout sacrifier pour pouvoir rejoindre le continent européen. Et à l'inverse, nous suivons également le personnage de Salvatore Piracci, dont il est question dans l'extrait suivant. C'est un garde-côte italien de plus en plus tiraillé par son travail difficile. Le commandant était trempé. Cela faisait plus d'une heure qu'il avançait dans la nuit. Cela ne servait plus à rien. Il le savait, il ne trouverait plus personne. Salvatore Piracci pense aux hommes qui étaient sur ces trois barques manquantes. Au désespoir des derniers instants, lorsque l'embarcation chavire et qu'il n'y a personne pour voir la vie se débattre une dernière fois. Il pensa au corps plongé dans l'eau, gesticulant un temps jusqu'à être gagné par le froid et s'abandonner à l'immensité. Il les voyait disparaître de la surface, puis continuer à flotter dans les courants sous-marins comme de grands oiseaux, bras écartés et bouche ouverte, loin du tumulte de la surface. Combien d'hommes étaient en train de mourir ainsi cette nuit, sans cri, sans témoin, avec leur seule peur pour escorte. Il contemplait la mer tout autour de lui. Et il aurait aimé hurler, de toute sa force. Hurler pour que les mourants l'entendent au loin, simplement cela. Qu'ils sachent que des hommes étaient là, qui ne les trouveraient jamais ou qui y arriveraient trop tard, mais qui étaient partis à leur recherche. Qu'ils sachent qu'ils n'avaient pas été oubliés. Le son long continu de la sirène était comme un dernier salut, pour dire qu'ils avaient tout fait pour les retrouver, et pour s'excuser de ne pas être parvenus.
La plupart de ces migrants, lorsqu'on les retrouve en profonde détresse en mer, ce n'est en réalité que la finalité de leur périple. Un périple durant lequel ils ont été forcés de donner tout ce qui leur restait de leur ancienne vie, argent, famille, et ne peuvent à présent plus faire marche arrière. Beaucoup de jeunes sont vendus comme esclaves en Libye et n'ont connu jusqu'à leur sauvetage en mer que la guerre. Certains traversent la mer pour la deuxième fois, car ils ont été rapatriés faute d'obtention de nationalité, souvent due à des emplois illégaux. Les passeurs leur vident toute leur économie, leur promettent une navigation en sécurité, et c'est finalement des visages de tyrans qui se dévoilent dès lors que le bateau prend le large. Ils volent leurs biens, leurs vêtements, leur nourriture, et abandonnent le navire dès que la situation part à la dérive. Un jeune Camerounais a confié ceci lorsqu'il a été sauvé par l'Ocean Viking. Arrivé sur le territoire libyen, j'ai été rapidement détecté comme un étranger et capturé par des malfaiteurs qui m'ont emprisonné. Les gardiens demandèrent une rançon à ma famille qui ne pouvait pas payer. J'ai dû pendant 2 années travailler pour les satisfaire afin de réunir assez d'argent pour me libérer et espérer payer par la suite un passeur. J'ai travaillé tous les jours avec une kalachnikov posée contre la tête, parfois sans être payé. Je ne m'arrêtais jamais, même quand mes mains me faisaient terriblement mal. Dans notre cellule, les gardiens violaient les femmes et nous forçaient à regarder. Un jour, ils ont donné une arme à mon ami et lui ont demandé de tirer sur d'autres prisonniers. On a tous fermé les yeux.
C'était Traverser les frontières, un podcast du BTS audiovisuel du lycée des Arènes.